Eh bien, nous allons continuer notre étude, on appelle ça une étude, mais plutôt un partage autour de la vie de notre sœur Jessie Penlewis, une vie qui s'est transformée par écrit, en sorte que quand elle nous a légué, je dirais au début du XXe siècle, ses écrits en fait, sont représentés par sa vie de tous les jours. Donc notre partage aujourd'hui sera inspiré en quelque sorte par ce qu'elle nous a laissé comme témoignage de sa vie et qu'elle a mis comme titre Mourir pour vivre. Pour elle, il arrivait à l'expérimentation pratique de sa vie. Pour arriver à la vie, il faut d'abord passer par la mort. Souvent, nous avons tendance, et moi le premier dans mon cheminement avec le Seigneur, à rechercher coûte que coûte la vie en mettant de côté la mort. Nous avons pris l'exemple du grain de blé. On a dit que s'il voulait nourrir, donner à manger pour plusieurs, il passe d'abord par un enterrement, par une mort, avant de pouvoir donner la vie. Et cette vie est souvent donnée dans la souffrance. Souvent, la vie et la joie est la conséquence des épreuves de la vie. Et le plus grand exemple que nous avons, ce sont les femmes qui nous le donnent encore aujourd'hui. Pour donner vie, pour donner naissance à un enfant, 9 mois dans le ventre de la maman, et qui se termine par une douleur, la douleur de l'accouchement. La vie sort après la douleur de l'accouchement. Et aujourd'hui, même les scientifiques n'arrivent pas à expliquer le fait que la seule douleur, la seule joie qui arrive à faire oublier la douleur, c'est cette douleur de l'accouchement. La naissance, la vie, dépasse les douleurs de l'accouchement. Vous voyez, donc la vie, il est le fruit d'un cheminement, des épreuves de la vie. C'est cela que la Bible appelle porter sa croix, tout simplement, que nous avons transformé par des expressions jusqu'à carrément monter sur une croix. Et j'ai vu ça en Amérique du Sud, dans les reportages d'Amérique du Sud, carrément, ils se clouent sur la croix pour prendre la même place. Mais ce n'est pas ça l'enseignement de la Bible. Mourir pour vivre. Nous avons présenté ce thème, mourir pour vivre, en 3 étapes. Et la première, c'était d'abord réaliser notre position en Christ. D'abord, commencer à savoir que vous et moi, en tant que chrétiens, en ce moment même, nous sommes au ciel. À l'instant où nous parlons, peut-être physiquement on se voit, mais spirituellement, nous sommes à la droite du Père avec Christ. Et ça, c'est grâce à l'œuvre accomplie par le Seigneur. Nous sommes à la droite du Père de Christ et nous sommes victorieux. Et nous sommes en Christ victorieux du monde, de la mort, de la chair et du diable. Et comme j'ai toujours l'habitude de le faire, encore ce matin, je rappelle à l'ennemi de nos âmes sa défaite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es vaincu. Romains 6, 3. Ignorez-vous que tous nous qui avons été baptisés, c'est au passé qu'on est au passé, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est déjà fait. Colossiens 3, 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous êtes morts, nous sommes morts. Nous n'allons pas mourir, nous sommes morts. Et notre vie, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Colossiens 2, versets 11 et 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Éphésiens, chapitre 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est déjà fait et spirituellement, nous sommes au ciel. Du moment qu'on a ouvert notre corps, notre cœur au Seigneur. Nous pouvons lire d'autres versets, d'autres passages de la Bible, mais nous contentons de ce que je viens de lire. Ça, c'est la première chose. En tant que chrétiens, quand nous ouvrons notre corps au Seigneur, nous réalisons que nous sommes d'abord spirituels. Nous sommes déjà dans le ciel. La Bible appelle ça la folie. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas, et pourtant c'est une réalité. Nous sommes au ciel, nous sommes célestes, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes spirituels, nous sommes au ciel. Maintenant que nous réalisons cette réalité-là, nous découvrons que nous sommes appelés à suivre ce cheminement. Parce que je suis mort en Christ, que maintenant je peux expérimenter la mort dans ma vie de tous les jours. Le message de la Bible, de la croix, est double. Christ est mort pour nous, ça c'est une facette de la pièce. L'autre facette, nous sommes morts et nous sommes appelés à mourir. Pas dans la mort physique, en fait c'est le dépouillement. Nous sommes morts avec Christ. Il nous appelle à mourir au péché, à la loi et à la religiosité. En sorte, avec Christ, nous sommes libres de cela. Ça ne veut pas dire en fait que nous allons faire le contraire de ce que la loi dit dans la Bible. Non, seulement au lieu que ça soit une exigence, une contrainte, un effort, d'un seul coup on se rend compte que comme c'est la vie de Christ qui est en nous, cette vie-là, la loi divine, elle devient naturelle. Nous sommes libérés petit à petit du péché, nous sommes libérés de la loi, et nous sommes libérés même des règles qu'on peut créer aussi sans se rendre compte, ce qu'on appelle la religiosité. Et nous arrivons maintenant à notre troisième et dernière étape, c'est comment refléter la vie de Christ. Comment Christ peut refléter la vie? Comment manifester la vie de Jésus? La Bible nous parle du visible et de l'invisible. Quand nous parcourons la Bible, on se rend compte qu'il est question du visible et l'invisible. C'est le mot traduit en français, visible et invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce n'est que l'aspect visible d'une réalité qui nous dépasse. Et parce que cette réalité qui nous dépasse existe, que les choses visibles existent. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tout ce qui peut exister visible ne peut exister parce qu'il y a l'invisible derrière. J'ai toujours pris l'exemple de la lumière ou du vent. Et le vent, on sait que le vent invisible existe parce qu'on voit les feuilles des arbres bouger. Les feuilles des arbres ne peuvent pas bouger s'il n'y a pas de vent. Nous-mêmes, comment peut-on... Il y en a qui ont dit qu'il faut avoir beaucoup de foi pour être athée. Le fait que nous existions, il ne peut y avoir de réalité, il ne peut pas y avoir autre chose qu'une réalité qui nous dépasse, qui nous fait exister. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est dans la lettre de Paul aux Hébreux. Le monde existe parce qu'il y a Dieu derrière, et ce Dieu invisible que nous ne connaissons pas. Le monde ne peut pas exister. Et la grâce pour le monde entier d'ailleurs, que ce soit pour les méchants ou pour les gentils, si Dieu se retire de ce monde, le monde n'existerait pas. Déjà c'est une grâce pour l'humanité, même pour ceux qui ne croient pas, parce que Dieu ne se retire pas de ce monde. Je me souviens de la question d'Abel mercredi, c'est vrai que c'est une réunion de prière assez, on va dire pas tendue, mais ça remet beaucoup de choses en question, et d'ailleurs c'est le but de l'étude biblique. Et c'était le sujet sur la prière. Et on disait que la prière, on ne prie pas pour que ça arrive. La définition de la prière, on prie parce que ça va arriver. C'est complètement différent. Et Abel avait posé la question, il disait sur les prophètes de l'Ancien Testament, mais il disait, mais les prophètes de l'Ancien Testament, est-ce qu'ils parlaient au nom de Dieu? En sachant qu'ils ont leur personnalité, ils ont comme une influence, leur psychologie. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre de ce qu'ils disent? Et après coup, en rentrant à la maison, j'y réfléchis à la question. Et c'est là, et ça a confirmé encore le but de notre étude, c'est l'œuvre de la croix. C'est ces prophètes-là, est-ce que Dieu les a appelés dès le premier jour? Mais pas du tout. Ils sont tous passés par des épreuves de la vie qui les a dépouillés d'eux-mêmes, vivre le brisement au point de ne dépendre plus d'eux-mêmes, ils dépendent de Dieu seulement. Prenons l'exemple de Jonas. À quel moment Dieu l'a appelé pour faire son œuvre, pour qu'il l'écoute? Il l'avait appelé la première fois, mais il s'est sauvé. Il est parti dans le port, il s'est sauvé, il a dit « je vais sauver, je ne veux pas répondre à Dieu » parce que par sa nature, il ne peut pas répondre à Dieu. Il est monté dans le bateau, il s'est sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il est tombé dans l'eau, il est rentré dans le ventre de la baleine, du poisson. Il est resté 3 jours et seulement en sortant, il a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Vous voyez le cheminement? Tous les hommes de Dieu, les prophètes, sont arrivés à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» après un cheminement de brisement. Il est 3 jours dans le poisson. C'est bien les 3 jours de la croix. Il faut passer par la croix. Pour servir Dieu, il fait en sorte que dans notre cheminement, dans notre vie, que nous portions notre croix, qu'on vive ce brisement, ce qu'on appelle la mort à soi-même. Et c'est quand on est dépendant seulement de Dieu qu'il nous dit « Maintenant, je peux me servir de vous. » C'était la réponse que peut-être qu'il fallait donner à Abel. Effectivement, les prophètes, Dieu les préparait dans le dépouillement. En fait, pour que les hommes de Dieu, les prophètes parlent au nom de Dieu, ou plutôt pour que Dieu parle à travers eux, il faut que leur nature, leur être tout entier s'immerge dans la nature divine. Il fallait qu'ils meurent à eux-mêmes pour laisser la place à Dieu. Et c'est le cheminement de tous les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit Abraham, Moïse, David, Jérémie, Élie, etc. On a déjà dans l'Ancien Testament une préfiguration de la croix du Nouveau Testament. Mourir pour vivre. Mourir pour que la vie divine jaillit. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Il nous montre comment arriver à expérimenter cette vie de Christ en tant que chrétien. 2 Corinthiens 4, 11, 12. Livré à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus puisse être manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. Pour que la vie se manifeste en nous, il faut qu'on soit livré à la mort. Attention, je ne parle pas encore de la mort spécialement physique, de perdre son âme, comme on dit, quitter cette terre. Nous devons être livrés à la mort, et pendant qu'on est livré à la mort, la vie jaillit. Et c'est ainsi qu'on peut témoigner aux autres, ainsi la mort opère en nous, mais la vie en vous, c'est-à-dire les autres, témoigner pour les autres. Écrit en grand caractère, dans la parole même de Dieu, ressort le principe de la mort, agissant en ceux qu'il envoie pour apporter son message, afin que la vie soit manifestée dans les autres. Livré à la mort pour l'amour de Jésus. Nous trouvons cette expérience vécue déjà au temps de l'Ancien Testament, dans la vie de David, le roi David, il est passé par là, et dans celle d'autres prophètes. Nous découvrons ce principe incrusté dans la vie de l'apôtre Paul, lui-même. Rappelons ce qu'il a vécu, déjà dès le début de sa conversion. Il a même été aveugle durant 3 jours, avant que le Seigneur le guérisse. Dans la vie des témoins, des martyrs, et dans celle de tous les serviteurs de Dieu qui n'ont jamais été employés par lui avec puissance. Et ce principe doit être la vie chez tous les chrétiens normaux. Dans chaque chrétien normal, il doit suivre ce cheminement, à commencer par votre serviteur. Ce principe de la mort produit la vie. Telle la maman qui donne la vie, qui accouche. Dans la douleur, qu'on peut considérer comme une mort, quelque part. Dans la douleur, elle donne la vie. Ce principe de la mort produit la vie, produisant la vie qui doit être forgée en nous avant que le message du calvaire communiqué pour nous puisse devenir vie dans les autres. Pour témoigner aux autres, il faut que ça fasse vie en nous. Là est l'explication du fait qu'on entend tellement prêcher sur la croix sans que la puissance de la croix soit à l'œuvre. Ne pouvant avoir compris clairement l'aspect substitutif expiatoire de la mort de Christ pour nous, mais n'avoir pas saisi le fait de notre identification à lui dans cette mort. Ou bien, si nous avons pris une position d'identification, comme nous l'avons dit, nous sommes morts avec Christ, donc nous le proclamons, nous n'avons peut-être pas saisi ce que signifie la conformité à sa mort. Conformité qui permet à la puissance de la croix et de la résurrection de Christ d'agir en nous tous les jours dans la vie pratique. Cette expérience introduit dans notre vie non seulement la victoire sur le péché, mais introduit en nous l'esprit de la croix, l'esprit du calvaire, l'esprit du Seigneur. Par contre, l'absence de compréhension à cet égard est la cause de cette anomalie contemporaine. La croix est prêchée, mais cette prédication ne porte pas l'empreinte de l'esprit du calvaire, l'esprit de la mort. Là réside le danger de l'enseignement de l'identification, sans que celle-ci soit suivie d'une réelle conformité à la mort de Christ, qui seul produit la vraie puissance. Seule la mort de Christ en nous produit la vraie puissance, la vie. Nous pouvons nous appuyer sur le fait que nous sommes morts avec Christ et prétendre qu'il n'a fallu qu'un instant pour que cette mort ait entièrement accompli son œuvre en nous. Mais ne pas réaliser que la conformité à sa mort doit suivre de près l'expérience de l'identification, qu'elle doit être appliquée dans notre vie de tous les jours, jusqu'à ce que la communion de ses souffrances sur le chemin de la croix soit devenue une réalité dans notre existence de tous les jours. Il faut que nous connaissions la croix dans une communion avec l'agneau de Golgotha. La mort de Christ ne peut et doit être la mort de Christ peut et doit être agissante en nous d'une manière si réelle que nous l'expérimentions comme une communauté, comme une église, comme une association avec le Seigneur dans ses souffrances. Cela seul donne naissance à une vie qui triomphe de tout. Pour avoir la vie, il faut accepter de suivre le même cheminement que le Seigneur Jésus-Christ. Certes, pas la même façon. On ne nous demande pas de nous clouer. On ne nous demande pas de nous suicider. Ça, c'est pas du tout la Bible, cela. Ça, c'est le diable qui le dit. Mais seulement d'accepter les épreuves que le Seigneur met devant nous. Ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 et 12, que j'ai lu tout à l'heure, est la pierre de touche de tout ce qui concerne cette expérience. Je le relis. Nous qui vivons, écrit l'apôtre Paul, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, et pendant ce temps-là, la vie en vous. Jérémie a été livré à la mort, dans la souffrance et dans le rejet. David a vécu de même. Il a été livré à la mort. Quand dans une heure de souffrance intense, il s'est écrié, le célèbre roi David, il s'est écrit dans Psaume 22, verset 2, voilà ce qu'il s'est écrié. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le roi David qui l'a dit, qui s'écriait. Le Saint-Esprit a pu alors faire entendre par le roi David les paroles prophétiques que devait annoncer le Seigneur sur la croix. La question qui se pose à beaucoup de chrétiens et à nous, comme nous sommes rassemblés ce matin, comment l'Église de Christ va-t-elle être préparée à rencontrer le Seigneur? Nous savons, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est que nous avons cette espérance, sinon je ne vois pas pourquoi être chrétien, c'est avoir cette espérance de faire partie de l'Église qui va rencontrer le Seigneur quand il va revenir. Le jour que le Seigneur reviendra, la Bible nous dit que l'Église, en tant que son corps, c'est-à-dire les chrétiens d'hier, d'aujourd'hui et de demain, si ça va se passer certainement demain, iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, et c'est là qu'il y aura une communion totale, c'est ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. C'est notre objectif en tant que chrétien aussi. Alors comment l'Église de Christ va-t-elle être préparée à rencontrer le Seigneur? Parce que la Bible, elle dit que cette Église, elle doit être pure, elle doit être blanche. Si je vais plus loin, ça veut dire que c'est pas tout le monde. Je prends le risque de le dire. Mais se poser cette question, c'est déjà se poser d'autres questions préalables. Comment Christ est communiqué aux autres dans notre entourage, de telle manière qu'ils deviennent une réalité puissante dans leur vie? Comment cette vie de Jésus, qui nous a été donnée par la communion avec lui par grâce, dans sa mort, atteindra-t-elle les autres? La réponse paraît toute simple elle-même, elle est toute simple et claire. Il faut que vous ne soyons prêts à être livrés à la mort, comme les prophètes l'ont été, comme le passage de la Bible que nous venons de le dire. Notre désir le plus profond est de faire connaître autour de nous le message du calvaire, le message de la croix, le message de Christ, dans toute sa puissance. Mais cela ne peut être réalisé que dans la mesure où il est œuvré en nous en premier lieu, comme il l'a été dans la vie de Jérémie, de David, de l'apôtre Paul et d'autres hommes de Dieu. Sommes-nous prêts à vivre ce message dans les larmes, s'il le faut, comme David, qui a gémi et pleuré en faisant les expériences décrites dans Psaume 22, et je vous conseille de lire le Psaume 22. Vous verrez cet état du roi David devant son Créateur. Oui, il nous faut tout autant que David connaître les angoisses, les sanglots du calvaire, dans la communion de ses souffrances, si nous voulons que le Saint-Esprit communique la vie aux autres par le message de la croix que nous leur apportons. Les messages, les prédications qui prononcent le bonheur à tous les chrétiens, c'est du faux évangile. Et nous le dénonçons ce matin. La Bible, les hommes de Dieu sont passés par des épreuves avant d'atteindre la vérité avec Dieu. Le peuple juif, il a passé 40 ans dans le désert, dans la souffrance, dans le rejet. Il a fallu que le Seigneur intervienne en ouvrant la mer Rouge et en ouvrant aussi le Jourdain pour qu'il atteigne la terre promise. Et en plus, tout le monde n'a pas atteint. Comment aujourd'hui on peut dire qu'un chrétien doit vivre tout le temps dans le bonheur? Un chrétien doit être malade? Un chrétien doit être riche? Un chrétien ne doit pas être au chômage? C'est un faux évangile. Et il faut le dénoncer. Oui, il nous faut tout autant que David connaître les angoisses et les sanglots du calvaire. Si nous ne leur faisons pas, si nous voulons témoigner autour de nous, et si nous ne leur faisons part que de nos lumières intellectuelles, au certes au XXIe siècle, tout le monde est cultivé aujourd'hui. Et il suffit d'aller sur Internet et on connaît presque tout de l'histoire de la Bible. Si nous ne leur faisons part que de nos lumières intellectuelles sur la mort de Christ, cela peut, il est vrai, leur apporter la lumière, mais jamais la vie. Nous n'apportons pas la vie. Et la vie, ce n'est pas le savoir intellectuel. Nous sommes peut-être capables d'expliquer parfaitement tout ce qui concerne l'identification à Christ. Nous sommes capables de connaître la Bible par cœur. Nous sommes capables d'expliquer Christ. Nous sommes capables de parler de l'identification de la mort au péché et la victoire personnelle, si bien que nos auditeurs, notre entourage, pourront à leur tour devenir victorieux. Mais ce n'est pas la vie passant autour de, à travers nous. Car pour cela, il ne faut rien du moins que la communion de ses souffrances accomplie en nous par le Saint-Esprit. Il faut que la croix fasse son œuvre en nous et notre témoignage apportera la vie. Le Seigneur Jésus a crié sur la croix de Golgotha: « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Répétons ainsi les paroles prononcées par David au milieu des larmes amères des années auparavant et même sur la croix. Ce fut à Golgotha que la vie même de Jésus fut libérée en faveur d'un monde mourant. C'est en mourant dans l'angoisse et dans la souffrance sur la croix que la vie est donnée aux autres, que nous sommes aujourd'hui ici. Toujours livrés à la mort. Toujours livrés à la mort. Ainsi donc, la mort agit en nous et la vie en vous, disait l'apôtre Paul. Ces mots expriment-ils une supplication pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Pas du tout. Est-ce que ces mots qu'il a exprimés expriment pour obtenir le bonheur? Mais pas du tout. Seulement toujours livré à la mort. Avons-nous déjà demandé à Dieu de nous associer à Christ dans sa mort? Avais-je demandé un jour à Dieu de nous m'associer à Christ dans sa mort? Où je me contente souvent de chercher est-ce qu'il m'associe à ses résurrections et au bonheur. Nous avons peut-être, et même certainement, prié pour obtenir la puissance. C'est humain. Mais la réponse de Dieu est toujours livrée à la mort. Rappelez-vous de la vision qu'elle a eue la sœur Jessie Penn Lewis quand elle cherchait la puissance. Quelle vision elle a eue? Le Dieu lui a donné une vision qu'il était une serpillière sale. Mais il dit, mais Seigneur, ta Bible, ta parole le dit. Je cherche le Saint-Esprit, la puissance pour aller témoigner. Il dit, non, tu es une serpillière sale. Réalise que tu es une serpillière sale. Réalise que tu es morte. Tu as besoin du Seigneur. Et quand tu réalises que tu ne peux même pas me servir, C'est à ce moment-là que je viens à travers toi et tu verras ce que ça veut dire la vie et la puissance. Toujours. Pas seulement de temps en temps, livré à la mort. Mais vous pouvez me dire, vous pouvez nous dire, je croyais que lorsque je suis venu à la croix et que j'ai compris mon identification avec Christ dans sa mort, j'avais été introduit sur le terrain de la résurrection par mon union avec lui, puisque par son ascension, j'avais pénétré avec lui dans les lieux célestes, parce qu'on l'a lu tout à l'heure, nous sommes déjà assis au ciel. Hein? On peut lire Éphésiens chapitre 2, hein, tout c'est bien clair. Je croyais que la croix était maintenant derrière moi et que je n'avais plus qu'à maintenir ma position en Christ. Mais c'est quoi cet évangile maintenant qu'on me demande de porter ma croix? Oui, en partie, c'est vrai. Nous sommes assis dans le ciel. Mais ça, c'est l'invisible. Ça, c'est le spirituel. Mais pour que ce spirituel invisible se voit dans ma vie de tous les jours, mais il faut passer par la croix. Une réalité entre guillemets théorique, c'est-à-dire spirituelle, j'aime pas le mot théorique parce que c'est une réalité. Spirituelle, c'est déjà fait, et pour que cette réalité invisible se fasse de tous les jours aujourd'hui, il faut que la croix fasse en œuvre en moi pour que ce qui est spirituel se voit dans ma vie de tous les jours. Oui, cela est vrai, mais toute la vérité n'est pas contenue dans ce que vous venez de dire. Que ce soit 2 Corinthiens 4, 10, 12 que nous avons lu, ou que ce soit Philippiens chapitre 3, verset 10, nous rappelle que la mort doit faire son œuvre en nous. Philippiens chapitre 3, verset 10, justement, nous lisons. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour connaître Christ, la puissance de la résurrection, il faut vivre la communion dans ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Certes, il faut nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Romains 6, 11. Certes, nous qui sommes morts, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Certes, ce sont des vérités fondamentales, un roc sur lequel nous devons jour après jour maintenir notre position. Il le faut. Mais la puissance de la résurrection ne s'obtient que par la conformité à sa mort qui produit la vie pour les autres. Toujours livré à la mort pour l'amour de Jésus. Direz-vous encore, vous ne placez pas devant nous le côté le plus attrayant de la vie chrétienne. Nous attendions un message plus optimiste. Il fallait parler de la vie chrétienne joyeuse. Mes frères, mes sœurs, pourquoi en suivant notre Seigneur recherchons-nous toujours ce qui est attrayant à vue humaine? Le calvaire dans toute sa terrible réalité était-il attrayant? Si nous étions devant la croix et on a vu le Seigneur ce qu'il a vécu, est-ce qu'on danserait, on chanterait de joie? Celui lui-même était-il attrayant sur le chemin de la croix? Dans Hébreux 12, verset 2, il nous est dit « À cause de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix. » Le Père lui a dit « Voilà la joie qu'il va y avoir parce qu'il y a beaucoup de cœurs vont s'ouvrir et l'Église va se créer après. » Il a dit « Je monte sur la croix. » La joie vient après le renoncement et accepter même de monter sur une croix. Si nos yeux s'ouvrent par le Saint-Esprit et qu'il nous soit donné d'avoir la vision divine de notre Seigneur dans sa souffrance, nous trouverons une beauté ineffable dans l'esprit de l'agneau qui était en lui. Nous verrions le côté céleste de la communion avec Christ sur le chemin de la croix et nous regarderons comme une joie parfaite de suivre ses traces. Alors notre désir intense serait de souffrir avec lui. Et je parle encore une fois des choses subies, pas des choses recherchées. Il ne faut pas être maso non plus. C'est une maladie mentale que de chercher à souffrir. Mais quand le Seigneur permet dans notre vie de vivre des épreuves et des souffrances, ce n'est pas quelque chose que nous recherchons, on dit qu'il nous est tombé dessus. Eh bien, par la foi, il faut savoir que le Seigneur, peut-être, à travers cette épreuve, il veut m'apprendre, il veut me faire grandir, il veut me mener vers la maturité spirituelle. Notre désir intense serait de souffrir avec lui, parce que ainsi et ainsi seulement, nous serons glorifiés avec lui. Je ne fais que relire Romains 8, 17. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, Et vous regardez le si. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. Mais quelle est la signification de ces mots, être livré à la mort? Parce que ça va être mal compris. Il y en a qui vont recevoir la mort, ils vont dire quoi? Mais quoi, il faut se faire du mal? Qu'est-ce qu'il fait, ça veut dire ça? Mais pas du tout. Dieu nous appelle à consentir, à être abandonné à la mort pour l'amour de Jésus. Il nous faut une vision qui aille plus loin que celle de notre confort, de notre joie, de notre bonheur personnel, de nos extases même. Il nous faut recevoir la puissance pour être témoin et la puissance pour pouvoir nous abandonner entièrement à la volonté de Dieu afin que la vie agisse chez les autres. Quels sont les instruments que Dieu emploie pour réaliser cette communion avec Christ? Et là, je fais appel à notre sœur Jessie Penn Lewis. Elle nous demande de lire Matthieu 24, 9. Alors ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs. Sommes-nous prêts à être haïs par le monde et même par les frères et sœurs? Ou bien y a-t-il en nous un sentiment cuisant, douloureux, qui déborde en ressentiment sur les autres? Chercherons-nous à justifier pour nous défendre? Dans ce cas, nous n'avons pas encore appris ce qu'est le calvaire et la communion de ses souffrances. Parce que le Jésus n'avait pas mérité ce qu'il avait, mais à aucun moment il a reproché. Il a même allé plus loin. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a bien des manières de faire mourir, mais sans employer, sans spécialement quitter cette terre, ou utiliser un fusil ou je ne sais quoi. Ce n'est pas de cette mort-là il s'agit, ici que la Bible parle de la mort à soi-même. Les enfants de Dieu seront rejetés, haïs, méprisés. C'est une mort. Quand le message de Dieu est vraiment devenu une partie de nous-mêmes, il devient l'épée de l'esprit pénétrant jusqu'aux jointures et aux moelles chez les autres. Et il arrive qu'il s'en irrite et se tourne contre nous. De nos jours, le message de la croix est adouci. De nos jours, le message de la croix cherche à satisfaire l'homme. De nos jours, on ne veut pas heurter le frère et la sœur. De nos jours, on veut côtoyer le monde pour vivre en harmonie. Le message de la croix est adouci. On essaie d'adapter son langage aux sentiments du 21e siècle. Si nous sommes fidèles dans la communion avec notre Seigneur et Sauveur, le tranchant de la croix se fera sentir. Que nous le voulions ou pas. Consentons-nous à ce que dans notre lieu de travail ou dans la vie de famille, on se moque de nous, sans nous défendre, sans chercher à se battre? Consentons-nous à ce qu'on nous fasse subir des injustices en nous jugeant faussement? Et supporterons-nous ces épreuves avec l'esprit du calvaire? Tout en proclamant, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 19, nous lisons « Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Si nous souffrons, ce n'est pas envers mon frère, ma sœur ou envers le monde que je dois me défendre. Je me remets au Seigneur, mais qu'il leur pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous oublions des fois que nous étions comme eux avant d'être chrétiens. Car nous qui vivons sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus. Nous qui vivons. Vivre. Ici, nous trouvons la vie s'épanouissant au milieu de la mort. La Bible ne dit pas que nous sommes la lumière dans le monde. Dans la mort, il y a la vie. Normalement, le chrétien doit être la vie dans le monde qui est la mort. La vie divine en nous ne peut pas être anéantie. Mais comme le grain de blé qui donne du pain est broyé, cette vie se brisera en livrant son parfum et sa puissance vivifiante. La vraie vie de Dieu en nous supportera n'importe quelle épreuve. Et si nous n'y arrivons pas, prions le Seigneur qui nous aide. La vraie vie de Dieu en nous supportera n'importe quelle épreuve, si poignante soit-elle. Mais quant à ce qui n'est pas de Dieu, le plus tôt cette chose périra et disparaîtra, mieux cela vaudra pour nous. Il peut arriver que la vie de Jésus, quoique habitant véritablement en nous, soit réalisée et remarquée par le fait qu'elle ne trouve pas d'orifice pour se répandre. Le vase qui noue, le vase qui la contient, n'a jamais été brisé. Et tant que le vase ne se brise pas, la vie restera contenue dans ce vase. Ce n'est pas pour autant que la parabole du vase et du vin nouveau. Il faut que le vin nouveau, il brise le vase. On ne peut pas contenir. Il nous faut une nouvelle nature. Une nature, c'est Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours livrés à la mort par le Seigneur Jésus-Christ. Si la mort n'agit pas dans l'homme extérieur, cette vie est comprimée entre les parois d'une circonférence rigide. Qui sommes-nous dans le sentier de l'épreuve? Nous, toi, qui es écrasé par la souffrance, commence à donner aux autres. Cesse de penser à toi-même, je cesse de penser à moi-même, à mes propres besoins. Je reconnais que ma place est dans la mort de Christ et je déclare que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'accepte d'être toujours livré à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse être manifestée. Je ne demande pas que le chemin de l'épreuve me soit épargné. Je ne demande pas être délivré de ceux qui me font du mal et me mettent à l'épreuve. Je réclame seulement que la vie de Jésus en moi puisse se répandre et triompher en eux. C'est le témoignage. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Jésus. Et qui donc est celui qui me livre? C'est la main qui a été percée au calvaire, la main du Seigneur. Ai-je donc une part à accomplir dans cette expérience? Ma part, c'est de choisir. Car il est dans mon pouvoir de me rebeller. Notre part, c'est d'accepter le chemin qu'il veut pour chacun de nous, de choisir d'être livré dans une participation intime à la mort de Christ. Alors, celui qui est mort et ressuscité te dira à toi et à moi, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, verset 16. Et quel sera le résultat de ces expériences? Toujours livré à la mort, afin que la vie, avec un grand V, de Jésus puisse être manifestée dans notre chair mortelle. Et je termine. Que Dieu nous accorde la grâce d'ouvrir notre esprit à ce message. Il n'est pas séduisant. Ce n'est pas un message qui va attirer la foule. Ce n'est pas un message, peut-être, que nous prêchons dans les églises, et pourtant, c'est par ce trou d'aiguille que le Seigneur veut que nous passions, afin que le Saint-Esprit puisse nous pénétrer de sa vérité et que nous soyons rendus capables de suivre l'agneau quelque part qu'il aille. Et je ne peux terminer ma conclusion que par la conclusion donnée par notre sœur Jessie Penn Lewis. Voilà ce qu'elle a écrit. Pouvez-vous dire du fond de votre cœur, « Oui, je vis, je sais que je vis avec Christ, étant participant de la vie divine. Devant moi se déroule maintenant le chemin dans lequel Dieu m'a conduit depuis quelque temps et contre lequel je me suis révolté. Je me suis irrité de devoir y passer. J'ai dit, non, j'en ai assez de cette croix. Il n'est sûrement pas nécessaire d'en entendre toujours parler. Je ne la désire pas. Mais maintenant, je l'accepte et je suis prêt à y faire face. Amen.